Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1960, Georges Lautner réalise l'une de ses premières œuvres, Arrêtez les tambours, un film pacifiste et idéaliste en noir et blanc, dont il a écrit lui-même le scénario. Il traite de la Deuxième Guerre mondiale, mais développe plus largement une réflexion sur les guerres, toutes les guerres. Le propos apparaît grave, profondément mélancolique, voire désespéré, avec la musique de Georges Delerue qui contribue fortement à créer un climat crépusculaire. Cette réalisation met en relief une facette peu connue de Lautner, tant le public associe spontanément son nom à celui du dialoguiste et scénariste Michel Audiard et à ses nombreux films comiques qui furent souvent de grands succès populaires. Mentionnons bien sûr avant tout les Tontons Flingueurs ou bien des Pissenlits par la racine qui sortirent tous deux en 63. Citons également la série des Monocles avec Paul Meurice ou encore les Barbouzes en 64 et Ne nous fâchons pas en 66. Autant de réalisations qui furent suivies de beaucoup d'autres exploitant la même veine comique souvent déjantée. Toutes contribuèrent à façonner l'image d'un cinéaste léger, plein d'humour, toujours en verve et semblant ne prendre jamais rien au sérieux. Or, il n'en va pas de même ici. En effet, Lautner dresse dans cette œuvre la chronique d'un village français meurtri par l'occupation. Il ne s'agit cependant pas d'une fresque et il ne se livre pas davantage à une héroïsation des personnages. À bien des reprises, il n'hésite pas d'ailleurs à souligner leur travers, leur mesquinerie et leur lâcheté. Le docteur Leproux, incarné par Bernard Blier, est maire de Courdimanche, un village occupé par les Allemands. C'est un humaniste, bon vivant, désabusé, qui ne croit plus guère à grand-chose sinon à son métier. En aucun cas, il n'est un collabo, mais il n'est pas pour autant résistant et pas davantage attentiste, comme le sont pour la plupart ses administrés. Il se montre tout à la fois disponible et ouvert aux autres, à leur écoute humain, trop humain. Il ne juge pas, ne condamne rien ni personne, et cherche toujours à comprendre les uns et les autres. Cette posture le conduit à soigner un soldat britannique, tombé du ciel et recherché par les Allemands, puis à le confier à un réseau de résistants afin qu'il l'évacue. Mais ceci l'amène tout aussi bien à se lier avec un officier allemand, médecin lui aussi dans le civil, un confrère en quelque sorte, qui ressemble à bien des égards à l'officier du silence de la mer, Werner von Ebronach. Comme lui, il s'agit d'un homme cultivé, modéré et tolérant, qui subit la guerre plus qu'il ne l'a fait. Avant tout, il aspire à retourner vivre en paix dans son pays. Au fil des jours, lentement, une complicité amicale naît entre eux, faite de silence, de non-dits, de goûts communs, d'une même vision généreuse de la vie. Un engagement qui prend un jour la forme d'un mensonge protecteur. Le major allemand allant jusqu'à mentir à sa hiérarchie pour fournir un alibi au docteur Leproux menacé d'être fusillé. Dans le même temps, cet officier noue une relation amicale puis amoureuse avec Catherine, la fille du médecin, ce qui scandalise Germaine, la domestique. En effet, cette dernière tient avec autorité et rigueur la maison du médecin, mais elle désespère de ne pouvoir régenter de la même façon ses occupants. Gardienne des lieux, elle l'est plus encore des traditions, des principes et finalement d'une certaine image stéréotypée et ahistorique de son pays. Elle se montre ainsi implacable dans son refus de toute concession, voire de toute compréhension. En fait, la France telle qu'elle la conçoit, c'est celle d'une terre éternelle à l'identité pure et inaccessible. C'est dire combien elle se montre scandalisée par l'idylle qui se noue entre la jeune française et l'officier allemand. Tout comme les villageois qui stigmatisent ce rapprochement avec un boche, ce qui leur permet au passage de s'offrir une bonne conscience à peu de frais et d'occulter leur veulerie devant l'occupant. Ainsi n'hésiteront-ils pas à lui jeter des pierres une fois les Allemands partis. Le titre du film fait référence au tambour que le garde champêtre, interprété par Henri Virlogeux, ne cesse de battre pour annoncer un bombardement, mais dont il joue également pour exprimer son hostilité envers les Allemands. Il finira d'ailleurs par rejoindre les Maquisards, dont le chef est interprété par l'homme de théâtre, témoin des grandes heures du TNP, Daniel Sorano. Cependant, le combat est parfois émaillé d'échecs. Par exemple, lorsque le réseau de résistance organise le déraillement d'un train, il frappe par erreur un convoi de la Croix-Rouge transportant des blessés. Mais bientôt commence le début du débarquement et les Allemands doivent évacuer la région en catastrophe. Au terme de plusieurs assauts, le major est blessé, tandis que plusieurs résistants sont tués. Le docteur Leproux réussit à convaincre son ami allemand de s'enfuir avec sa fille. Confiant dans sa conduite irréprochable envers les occupants aussi bien qu'envers les résistants, il décide pour sa part de rester au village. Mais des soldats allemands qui viennent d'infiltrer le village pensent toutefois qu'il a tué le major. Le docteur Leproux a beau leur dire la vérité, au demeurant assez invraisemblable, à savoir qu'il a aidé l'officier à échapper aux alliés, il ne le croit pas. Son histoire, pourtant parfaitement véridique, leur paraît trop abracadabrantesque pour être crédible. Il décide par conséquent de le fusiller sur la place du village. Avec Arrêtez les tambours, on découvre une facette de Bernard Blier assez peu connue du public. Le comédien interprète cependant là un de ses plus beaux rôles, tantôt tragique et bouleversant, tantôt tendre et désespéré. Toujours en retenue, sans pathos grandiloquent. Qui est l'ami, qui est l'ennemi? Il est clair que Leproux ne veut pas entrer dans ce type de questionnement et n'entend pas choisir. En effet, bien qu'il soit acculé de tous côtés à prendre parti, il se refuse jusqu'à sa fin tragique à entrer personnellement en guerre. À aucun moment il n'accepte d'appliquer les règles réductrices propres à tout conflit, car il ne veut pas agir de manière manichéenne, au risque de perdre ses valeurs humanistes. Pour autant, sa conduite ne relève pas à proprement parler du pacifisme. Ses décisions ne reposant pas sur une doctrine globale qui renverrait à la politique des États. Non. Plus simplement, il ne se résout pas à considérer les hommes en termes d'amis-ennemis. Or, comme l'a bien montré Carl Schmitt, la discrimination amis-ennemis fournit un principe d'identification qui joue comme critère politique, implacablement déterminant et incontournable en temps de guerre. On songe à cet égard aux considérations de Rousseau sur la guerre. Rappelons que pour le penseur genevois, les affrontements guerriers se déroulent entre des sociétés politiques. Institution sociale, la guerre lui apparaît par conséquent avant tout comme un conflit violent que se livrent les États avant de devenir un combat entre des individus. Sur ce point, il nous invite clairement à ne pas prendre la conséquence pour la cause. En effet, pour le philosophe, les hommes peuvent certes entrer parfois en belligérance, mais il s'agit alors simplement de luttes qu'il convient de ne pas confondre avec les guerres. Prérogative exclusive des États en tant que production sociale, ces dernières demeurent toujours, aux yeux du théoricien, des séquences exclusivement interétatiques. Il n'y a point de guerre entre les hommes, il n'y en a qu'entre les États, considère-t-il dans ses écrits sur l'abbé de Saint-Pierre. Dans Du contrat social, il précise son aphorisme. La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'occasionnellement, non point comme hommes, ni même comme concitoyens, mais comme soldats. Cette thèse de Rousseau se trouve particulièrement bien illustrée par le destin tragique de Leproux, tel que l'a mise en scène Lautner. Dans cette œuvre désenchantée, le personnage ne se résout à être ni soldat, ni collabo, ni résistant, ni attentiste, ni belliciste, ni même pacifiste. Autrement dit, son identité ne s'affirme que négativement. Elle peine à s'imposer et ne pourra véritablement s'accomplir que dans la mort. En effet, Leproux a désespérément tenté de n'être que médecin, humain, trop humain, dans un moment historique où on ne lui a pas permis d'exercer cette liberté suprême. échappèrent à la sommation des États en guerre.